Bonjour à tous. Alors, je suis vraiment désolé de ne pas intervenir en direct, mais de proposer cette vidéo. Je me faisais une joie d'intervenir aujourd'hui à ce colloque 20 ans à RZA et le bonheur de l'arrivée un petit peu en avance de mon deuxième petit bout hier soir fait que je peux pas être là cet après-midi. Donc j'espère que ça passera bien la vidéo et que si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à me contacter au mail qui est indiqué là sur la slide et sur la dernière slide aussi. Voilà. Donc j'appelle Yvan Le Braz et je vais vous parler du PNDB, le petit nom du Pôle National des Données de Biodiversité. Et ici, je présente déjà sur la première slide le fait que c'est une infrastructure qui est rattachée et pilotée notamment par le Muséum d'Histoire Naturelle et l'unité UMS Patrinat qui est située à Paris, donc au Jardin des Plantes. Et que moi j'ai la chance d'être à la station marine de Concarneau. Donc vous avez le nom de différentes personnes qui sont en fait les membres du comité exécutif du projet, donc les gens avec qui j'échange le plus régulièrement, on va dire, sur les évolutions du projet. Donc je pense que vous reconnaissez pas mal de noms et je vous invite aussi à pourquoi pas les contacter si vous avez des questions autres. Il y a aussi pas mal de logos, notamment sur les initiatives internationales sur lesquelles nous sommes impliqués particulièrement, et puis les partenaires. Alors, une première slide un peu horrible, hein, mais qui a le bénéfice au moins de montrer ce qu'est le PNDB d'un point de vue entre guillemets administratif. Donc c'est une infrastructure de recherche du dispositif Système Terre et Environnement pour le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et donc là vous voyez donc cet affreux schéma avec différentes briques qui représentent donc le pôle national des biodiversités avec l'ensemble des autres infrastructures de recherche de l'aspect terre vivante sur le côté gauche en vert de ce schéma et le côté Système Terre maintenant appelé Data Terra avec différents pôles de données tels que Theia ou Datis, Format Terre ou Aeris pour les différentes strates, on va dire, de la Terre, que ce soit les surfaces continentales, le milieu marin, l'aspect air ou les terres internes. Et donc dans ce dispositif, on va avoir un rôle particulier de ces pôles de données. Donc côté Terre vivante, le premier pôle de données qui est créé, c'est ce pôle national des biodiversités. Alors le PNDB, il a avant tout une interface terre vivante, du coup, avec des infrastructures de recherche telles que le réseau des zones ateliers, ANAE France, Emphasis sur plus les agro-écosystèmes et les aspects collection avec Récolnat. Et également aussi avec les chercheurs qui viennent d'organismes, notamment partenaires du PNDB, et qui sont donc des chercheurs qui produisent et ou utilisent des données de biodiversité. Et à cela s'ajoutent aussi des systèmes d'information fédérateurs, donc anciennement de l'AFB, maintenant de l'OFB, j'aurais dû mettre à jour le terme, derrière lesquels on a les trois SI du milieu marin, de l'eau et de la biodiversité. Outre cet aspect, on va dire terre vivante, on a donc un rôle au niveau du PNDB de mettre en place une interface avec les infrastructures côté terre solide, et donc là, c'est notamment les infrastructures liées à Data Terra. Dans le cadre des infrastructures du MESRI, on a aussi comme vocation et comme but de rentrer en lien avec les dispositifs internationaux et d'être en cohérence vis-à-vis de ces dispositifs. Donc ici, je mets juste quelques pointeurs sur des projets dans lesquels nous sommes impliqués ou avec lesquels nous sommes liés, comme par exemple le fait que le PNDB travaille vraiment en étroite collaboration avec le GBU France, qu'il est aussi le lieu où s'échangent les informations autour du nœud français, du Barcode of Life. Aussi pour les aspects participation à Géobon autour des concepts de variables essentielles de biodiversité. Et puis différentes autres initiatives sur lesquelles je passe un peu vite, mais il y a notamment GoFer sur la ferrisation des objets de recherche en biodiversité, dans laquelle il y a un Implementation Network qui est piloté donc, par moi-même et Anne-Sophie Archambault du GBIF. Certaines interventions donc dans les groupes RDA sur la donnée, et puis des projets européens qui nous permettent de développer des produits et services et d'avancer sur leur mise en place, notamment dans le cadre du cloud Open Science et EOSC, ou de projets tels que GAPARS ou Erasmus+. C'est une infrastructure nationale de recherche qui est numérique, donc qui est là pour proposer des produits et des services autour de la donnée, mais pas que, qui est en fait sous partenariat de, actuellement, enfin jusqu'à juillet dernier, jusqu'au dernier Copil, une dizaine d'instituts de recherche dont les logos étaient présents avant et auxquels s'est ajoutée une dizaine d'universités, donc 13 universités qui veulent rejoindre le partenariat. Donc le maître d'œuvre de cette infrastructure, c'est le muséum depuis 2018, et la gouvernance se découpe en comité de pilotage, conseil scientifique et comité exécutif. Un petit pointeur sur les conseils scientifiques qui notamment qui existent en comment dirais-je, deux déclinaisons, le conseil scientifique élargi, qui est élargi justement aux représentants des infrastructures de recherche. Et puis le conseil scientifique restreint, qui en fait réunit les représentants des comités d'experts scientifiques, dont les quatre groupes, les quatre noms sont mentionnés ici, et qui sont d'ailleurs en restructuration actuellement. Alors le PNDB peut être résumé par cette diapositive, notamment sur le fait qu'il y ait 10 lignes de force, une orientation FAIR pour des objets de recherche faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables, et donc aussi FAIR que possible, mais aussi ouverte que possible. Alors ça, c'est des mots-clés hein, souvent qu'on voit associés à des infrastructures ou des systèmes existants, mais dans le cadre du PNDB, comme c'est une infrastructure assez récente, on a la chance de d'avoir clairement cet affichage et cette orientation qui est dans l'ADN de l'infrastructure et qui permet d'orienter notamment certains choix d'implémentation. Donc elle est les aspects reliés et mutualisés avec les composantes existantes du système Terre environnement, s'articuler avec les dispositifs existants, notamment les systèmes d'information fédérateurs de l'OFB. Offrir des services à valeur ajoutée, privilégier la qualité donnée, la qualité au-delà de la quantité, donc c'est-à-dire voilà, on a bien sûr les aspects big data, mais pour l'instant en tout cas dans les premières phases, l'idée est de travailler vraiment sur le côté quality data et comment on arrive à renseigner et avoir de la donnée très structurée avec une structuration de bonne qualité pour faciliter la réutilisation des produits, même si ce n'est pas des grosses données. Promouvoir la flexibilité des services, ce qui est assez important pour les communautés de recherche, et développer, faciliter, favoriser la description fine des données, donc par de la métadonnée fine. Viser une portée internationale, que ce soit sur la couverture ou l'utilisation, donc des chercheurs français qui travaillent à l'étranger peuvent très bien proposer des données qui ne concernent pas le territoire français. Et articuler le PNDB avec des initiatives européennes et internationales, j'en ai parlé un petit peu avant. Et puis pour commencer, s'appuyer sur des petits nombres de cas d'études, hein, ça rejoint un peu le côté quality data, mais là l'idée c'est depuis juillet nous sommes en production, nous avons une première série de produits et services en production, et on fait donc une preuve de concept autour d'une soixantaine de jeux de données pour pouvoir vraiment aller dans le grain fin de l'avantage-inconvénient des choix effectués. On a trois principaux volets. Un premier volet qui est celui d'accès aux métadonnées et données. Un deuxième volet d'animation et d'accompagnement, et un troisième volet d'accès aux outils de traitement, de couplage et d'analyse, sachant que cet ordre-là est bien sûr pas seulement indicatif, mais vraiment dans l'ordre des priorités de l'infrastructure, le côté accès aux données et métadonnées étant bien sûr la première chose à traiter. Alors je passe un peu vite sur le planning, hein, mais c'était pour vous montrer notamment qu'il y avait un colloque qui était prévu pour juillet, qui bien sûr, vu les conditions, a été annulé, et que du coup on se restructure sur les aspects animation et autres, mais voilà, c'est un projet qui a débuté en mars 2018 et qui a avancé notamment par le travail des comités d'experts scientifiques pour définir le cahier des charges et ce qu'on doit mettre en place en termes de produits et services pour assurer une réutilisation maximale des produits qui vont être mis à disposition dans le PNDB. Alors pour l'instant, on a différents produits et services, un site web sur lequel vous pouvez vous rendre, donc pndb.fr, et à partir duquel vous aurez quelques informations et puis des pointeurs vers les autres produits et services qui sont présentés rapidement après. Un portail de données et métadonnées sur data.pndb.fr, donc avec une soixantaine de jeux de données pour l'instant. Et qui a pour but du coup de pouvoir donner de la visibilité aux données existantes, notamment dans on va dire les silos de données, les systèmes d'information existants, notamment ceux des infrastructures de recherche. une interface qui permet de faciliter la saisie des données et la saisie des métadonnées surtout et leur inférence à partir des données. Donc là, c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'est investi parce qu'on a vu qu'il y avait vraiment une grosse difficulté à proposer aux gens de saisir de la métadonnée fine. Et en fait, il existe des initiatives qui permettent de faciliter cette saisie de métadonnées, notamment à travers des packages R et autres. Et du coup, on s'est dit qu'il était pertinent de pouvoir proposer une interface web qui facilite l'utilisation de ces packages R pour que la plupart des gens puissent facilement utiliser ces ressources et créer de la métadonnée fine sans forcément y passer trop de temps. Et puis on a cet aspect plateforme d'analyse de données, de couplage de données de biodiversité avec des données que je qualifie d'auxiliaires, hein, du remote sensing et autres. Et donc là, on a la chance de coordonner l'initiative Galaxy pour l'écologie, donc en réutilisant une plateforme qui a été faite pour la bioinformatique, Galaxy, et en proposant des outils dedans liés au traitement de données de biodiversité. Donc on peut y trouver des outils comme la suite GEDAL pour les aspects SIG ou des outils pour calculer de la biodiversité, des indices de biodiversité. Diversité, des métriques de biodiversité à l'échelle des communautés ou des populations, et ça dans le cadre de Géobon. Alors pour faire une petite présentation rapide du paysage métadonnées dans lequel se place le PNDB, donc déjà on est parti sur un standard de métadonnées pivot qui s'appelle le ML ou Ecological Metadata Language, et je vous décris rapidement après pourquoi, parce que les zones ateliers n'y sont pas pour rien. Dans ce choix. Le but, c'est de pouvoir en fait lier les données, en fait les objets de recherche, hein, donc on parle des jeux de données, mais aussi des scripts d'analyse, des articles, des protocoles, et les associer à des métadonnées via des outils qui permettent de le faire, comme MetaShark ou les packages R directement, et avec des petites aides pour par exemple proposer de l'enrichissement sémantique pour pouvoir y associer des termes ontologiques ou issus de thésaurus. Et l'ensemble de ça, on va le mettre dans ce qu'on appelle des data packages, qu'on va pouvoir après disséminer soit dans la plateforme du PNDB, mais aussi à terme dans d'autres plateformes liées, que ce soit pour la métadonnée autour d'un, par exemple, de GeoNetwork, ou pour ce qui est plus de la donnée, par exemple, dans des dataverses institutionnelles. Alors, justement, un petit point qu'on avait pu faire l'année dernière quand j'avais présenté le PNDB au réseau BED. En fait, il s'est avéré au début du travail sur le standard de métadonnées à choisir que ce qui semblait être un exemple pertinent au niveau des besoins de réutilisation de la donnée et de description fine des données, notamment en lien avec le fait qu'il y ait des dispositifs emboîtés géographiquement ou temporellement au niveau des méthodes d'échantillonnage et autres, c'était de se baser sur les LTER. Et donc, voilà, les LTER, si je me trompe pas, c'est en fait les zones ateliers. Et on est parti sur un gros travail de voir ce qui se faisait au niveau américain, australien, européen. Ce qui était intéressant, c'est de voir qu'au niveau américain et australien, donc quasiment tous en fait se placent sur l'utilisation de l'EML comme standard de métadonnées, en mettant en avant notamment le fait que ça permet de décrire des attributs, donc les variables primaires qui sont enregistrées dans les données, et d'avoir tout un tas d'informations assez précises sur la donnée, facilitant leur réutilisation. J'ai cité ici quelques exemples d'initiatives autour de l'EML et quelques portails existants. Et puis quand on regarde au niveau européen, et bien, il y avait Dames qui est devenu Dames Cidre, voilà, après une évolution. Et on voit que l'organisation est un peu plus différente, plutôt basée sur les aspects directives INSPIRE, les métadonnées de type ISO, mais aussi avec maintenant un lien avec le ML et donc des échanges potentiels à avoir. Mais c'est assez intéressant de voir qu'il y avait quand même une grosse différence de point de vue et de façon de travailler entre Américains et Australiens. Les LTER qui étaient vraiment tous partis sur l'utilisation de ce standard EML et en Europe où c'était plus orienté sur les aspects INSPIRE et ISO 19115 notamment. Alors l'EML, j'en ai parlé rapidement, mais donc ça a un gros intérêt, ça permet une grosse flexibilité parce que ça fonctionne autour de modules qui peuvent être orchestrés les uns avec les autres, et l'EML a la chance de pouvoir proposer directement des descriptions d'attributs, mais aussi on peut y faire du traçage de provenance, d'où viennent les objets de recherche, notamment les données, mais pas que, et notamment faire des liens entre les données et les scripts, ce qui est assez intéressant. On peut y définir aussi des contraintes et également assez facilement y implémenter des aspects sémantiques avec l'ajout de ressources terminologiques. Pour le paysage analyse, rapidement, l'idée c'était de partir sur un aspect reproductibilité poussée des outils d'analyse et une orientation cloud, calcul scientifique assez intensif et workflow. Et pour ça, du coup, on est parti sur ce qui se fait derrière l'écosystème Galaxy avec le fait qu'on puisse générer des dépendances, enfin de gérer les dépendances des codes analytiques par notamment Conda. Conda qui permet de définir des packages R par exemple, mais aussi des packages Python et autres, ce qui permet de gérer en un seul environnement plusieurs types de langages de script. Et puis derrière, la création de containers type Docker et autres qui facilitent aussi la reproductibilité et le déploiement sur des grosses infrastructures. Et puis au-dessus de ça, du coup, on utilise Galaxy qui lui permet d'utiliser des scripts R, Python ou autres et de les utiliser sans savoir coder et de les orchestrer au sein de Workflow de façon assez facile à faire une interface graphique pas trop mal faite. Et puis ça nous permet du coup, comme Galaxy est assez orienté, enfin, très orienté standard, de pouvoir facilement échanger avec les autres initiatives, les autres plateformes de type RStudio, Jupyter Notebook ou D4 Science. Alors du coup, je reviens juste faire un petit point par rapport aux zones ateliers et puis les échanges qu'on a pu avoir avec BED. Alors on a des échanges assez réguliers, enfin personnellement j'ai des échanges assez réguliers avec différents membres du réseau, que ce soit sur les IBV, les variables de biodiversité notamment, mais aussi sur les choix technologiques, les standards de métadonnées et les outils qu'on pourrait mettre autour et qu'on peut mettre autour. Donc ce que je vois intéressant, c'est notamment de créer, de renforcer les liens qu'il y a entre les communautés des zones ateliers et le PNDB, de pouvoir assurer un support technique sur les produits et services qu'on pourra proposer et qu'on peut proposer aux zones ateliers, et puis d'avoir aussi la possibilité de faire des retours, de donner des conseils ou d'échanger, et d'impliquer les zones ateliers dans des initiatives notamment internationales comme Géobon ou DataOne. Je vous remercie de votre attention et je vous présente juste l'équipe rapidement avec donc aujourd'hui l'équipe PNDB qui est constituée de Colin, qui est l'ingénieur développeur sur l'aspect R et Galaxy, Eli, développement scientifique sur RShiny et les aspects aussi métadonnées, et puis Julien, qui est notre sauveur, notre administrateur système et réseau, développeur web et DevOps, qui fait en sorte que tout fonctionne et de faire le lien entre les machines et les logiciels. Voilà, n'hésitez pas à me contacter.